Salut, c'est Etienne, aka GE2, et bienvenue dans ce 39e numéro de Aux Manettes, le podcast qui vient sur ce que j'ai joué, le podcast où je suis aux manettes. Un nouveau numéro avec Unicorn Overlord ainsi que Balatro dans les chroniques. Ensuite, place aux zappers avec RMC The Cave qui fait des restaurations magiques. Et on se quittera avec les prochaines sorties qui me font de l'œil. Mais tout d'abord, place au Rumble Pack.
This is the Rumble Pack.
Unicorn Overlord, c'est le nouveau bébé des développeurs de VanillaWare. Aussi entre les différents genres, du visual novel, beat'em all aux mécaniques 90, en passant par le tactical. Mais toujours en commun, un style dessiné sublime et de la bouffe sublimée, car pourquoi pas.
En fait, j'ai tout en feu.
Et nous voilà donc avec Unicorn Overlord, un tactical RPG saupoudré d'un petit poiliné de RTS. Nous incarnons Alain, fils de la reine du royaume de Fevris. Sauf que c'est la révolution, le général Valmore fait un coup d'état pour prendre le contrôle du royaume. Joseph, le fidèle chevalier de la reine Ilenia, arrive à fuir avec son fils pour le protéger.
Les gens de Cornia sont souffrant, crying out for whatever help will hear their pleas. Should I turn a deaf ear to those voices?
10 ans ont passé sur une île à proximité du royaume, mais les ennuis reviennent vers Alain. Un ancien chevalier de la reine est désormais sous les ordres de Valmore, du moins c'est ce qu'on croit. Car Valmore utilise des pouvoirs occultes pour envoûter les personnes et les avoir sous ses ordres. Mais grâce au pouvoir de l'anneau de la licorne légué par sa mère, Alain peut annuler cet enchantement. Désormais, il se sent prêt, retour sur le continent pour libérer le royaume, voire même les royaumes, car le général Valmore a réussi à conquérir les autres contrées voisines.
Que trépasse si je faiblis !
Alain est désormais le chef de l'armée de la libération, à lui, avec ses amis et alliés rencontrés sur le chemin, d'essayer de reconquérir les anciens forts et villes occupées par les armées de Valmore. L'histoire est assez simple, avec en tête un Alain bienfaiteur, toujours là pour aider les opprimés, un optimiste contagieux dont ne rechignerait pas un Ichiban de Like a Dragon. Et des fois, ça devient presque comique, après avoir vaincu des chefs ennemis, j'avais le choix de les laisser partir ou les éliminer. A chaque fois, ils m'ont donné l'excuse qu'ils ont fait ça car ils avaient une sœur qui était malade. Bon, je sais pas, il y a peut-être une épidémie à Fevris, donc à chaque fois je les laisse partir, on sait jamais, ils seront peut-être des alliés plus tard.
À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Car même si je rigole sur ces passages, il y a beaucoup de moments gris dans l'histoire. Les passages qu'on rencontre, alliés, ennemis, ont tous été impactés par la guerre. Profiteurs, brigands devant survivre, mercenaires cupides, chevaliers à la dérive, on voit comment l'occupation par Valmore a foutu le zbeul et comment les gens font tout pour ne pas périr. J'ai même vu un méchant qui voulait faire bien sur le papier. Bon, mal, mais le bien quand même. Comme je le disais au début, Unicorn Overlord est un tactical RPG avec un poil de RTS. Je m'explique. On a une base pour faire spawner des alliés en utilisant des points de bravoure, notre ressource principale, pour déployer et exécuter des actions spéciales. On déplace nos unités vers les ennemis, des points d'intérêt, les objets ou les bases ennemies, comme des villes par exemple. Les déplacements se font en temps réel, pour vous ainsi que les ennemis, nous obligeant ainsi à protéger notre base. Alors ne vous inquiétez pas, on peut faire pause à chaque instant pour refaire des choix tactiques. Quand des unités se rencontrent, le combat peut se lancer. Le déroulement se fait automatiquement, mais non pas sans stratégie, car nos unités de 1 à 6 personnages ont des classes, des attaques, des capacités actives et passives qui changent tout. Alors on a toujours les classiques, hein, les lanciers à gros boucliers qui peuvent tanker les attaques légères, les flèches c'est fort contre les unités volantes. Mais il y a un enjeu sur le placement de nos unités. Est-ce qu'on les met devant, derrière, quelle ligne? On met quelles conditions pour activer les capacités? Par exemple, sous quel seuil on active les soins? On pourrait penser que les combats sont simplistes à se générer tout seul, mais il y a beaucoup d'options qui apportent de la générosité et de la flexibilité dans son armée. Surtout que l'onboarding, le guidage du joueur, est vraiment aux petits oignons. On apprend au fur et à mesure à jouer, mettant en avant petit à petit les nouvelles classes, donnant des exemples de formation optimales, on n'est jamais perdu. Et au pire, on peut retourner dans les guides pour retrouver les informations. Aussi, pour éviter l'écueil d'une armée trop high level qui roule sur tout, ils ont ajouté un système d'endurance, usant nos armées, les obligeant à se reposer pour pouvoir y attaquer, alors pour nous, mais aussi nos ennemis. À ça, ajouter des capacités spéciales, utilisant nos points de bravoure, bonus de vitesse de déplacement sur la carte, des soins, mais aussi du vol d'argent, des attaques sur la carte pour péter les barricades, ou foncer directement dans l'ennemi. On a vraiment un large éventail de choix et c'est un plaisir d'essayer différentes approches à un même problème. Et à côté de ça, j'aime beaucoup la carte du monde entre les combats. Un truc amusant, c'est que la carte du monde et les champs de bataille ont la même échelle, les mêmes emplacements. Du coup, on arrive à mieux s'approprier les endroits clés du royaume. Dans les zones libérées, on pourra aller voir les différents marchands, reconstruire les villes en échange de quelques ressources trouvées sur la carte, Il y a plein de petites choses qui occupent la visite des lieux. Chercher des objets cachés, prendre des ressources, visiter des tours ou des cimetières. Ça fait très FedEx sur le papier, mais tout est assez court et se fait naturellement sur le trajet. On a l'impression de participer à la reconstruction du monde à notre niveau. Je m'attendais à un petit jeu sympa, je me trouve avec un tactical RPG que j'aime d'amour. Une histoire simple qui se raconte bien. Je l'ai pas dit avant, mais les sprites, les dessins sont sublimes. La nourriture est toujours trop bien modélisée de plus que de raison. Le mélange RTS Tactical marche à merveille. Le rythme des champs de bataille est parfait. Au passage, jouer sur Xbox, mais je pense que vu le format des quêtes, il serait parfait à jouer sur Switch sur des petites sessions. Unicorn Overlord, c'est la vraie bonne surprise de ce début d'année. On a tellement eu de bons jeux en janvier, et avec ça, bah ça continue. Unicorn Overlord est disponible sur Xbox Series, PS4, 5 et Switch. For the kingdom of Drakenhold, we shall never fail. Alors, je parlais de surprise pour Unicorn Overlord, mais la vraie surprise de ces derniers mois, c'est Balatro, un jeu indépendant, un roguelite inspiration poker. Je vous avouerai qu'au début, je suis un peu passé à côté. Alors que la hype était présente dès les démos, la première vague que j'ai sentie, c'était live de Mister MV en octobre.
Balatro, conseillé par Pokémon, je sais pas ce que je raconte. Ah oui, attendez, j'ai pas le chat. Vous avez pas le jeu YouTube, mais vous êtes habitué au lancement foireux, hein, j'ai envie de dire.
Et petit à petit, un bon nombre de mes proches. Finalement, c'est quand j'ai vu un live de Shishayu à la sortie que je me suis dit « Allez, ça a l'air cool votre jeu », profitant de la promo de sortie de jeu. La promesse est simple mais parfaitement exécutée. Vous avez des grosses mains, vous devez faire les meilleurs combos de cartes pour dépasser un seuil de points avec un nombre limité de mains jouées et de défausses dans le round. Les combinaisons sont les mêmes que dans le poker, paire, brelant et autres suites sont les combos de base.
Le plus important au poker, ce ne sont pas les cartes. C'est ce que vous en faites.
Mais là, c'est que le sommet de l'iceberg. Le sel du jeu, c'est les multiplicateurs et autres bonus. A la fin de chaque round, on gagne plus ou moins d'argent avec les mains restantes et autres effets passifs de cartes. Et avec cet argent, on peut acheter des modificateurs et plein de choses pour améliorer, changer son deck. Des nouvelles cartes avec possiblement des altérations, qui donnent un multiplicateur s'il est joué, ou au contraire s'il est gardé dans la main. Les planètes pouvant améliorer les points de base ainsi que les multiplicateurs des combinaisons. Les cartes de tarot pouvant donner différents effets. Comme changer la couleur d'une carte, faire la copie d'une autre, donner de l'argent immédiatement. Et aussi on peut acheter des gadgets, disons, pouvant donner un effet sur toute la game, comme sur le magasin, ou le nombre de mains des fausses. Et surtout ce qui nous intéresse dans le jeu, c'est les jokers. C'est ça qui va vraiment changer réellement les parties, votre deck building. Et mon dieu, qu'est-ce qu'il y en a des effets, plus ou moins forts ou situationnels. Donner un multiplicateur pour chaque carte pique, gagner un bonus si la main contient une paire, gagner plus de points si la main jouée fait seulement 4 cartes, ou aussi avoir un gros multiplicateur quand on n'a plus de défausses. Bref, beaucoup d'options qui rend chaque partie unique.
Pense aux pièces d'un puzzle, Yugi. Garde cette notion en mémoire.
Un puzzle. Quand les cartes sont-elles un puzzle? Une minute.
À ça d'autres subtilités, comme les jokers négatifs qui ne prennent pas de place dans votre slot, les effets holographiques ou polychromes donnant plus de multiplicateurs. Au passage, au-delà de la prouesse en termes de game design, le jeu brille par son esthétique, son habillage. Ça peut principalement voir des cartes et devoir les choisir, tout est smooth et satisfaisant. Voir les cartes, faire des petites rotations quand on les tient, les effets de particules quand on les utilise avec un effet spécial, l'effet holographique des cartes ou quand tu ouvres les boosters à la boutique. Le curseur est parfaitement mis. C'est juste des cartes, mais on aime interagir avec, les collectionner.
Faut que j'en achète un, faut que j'en achète un, tu peux tous les avoir.
Le titre donne envie de jouer, rejouer, découvrir tous les jokers, tout débloquer. Surtout qu'à force, on essaye toutes les subtilités. Comme annuler un round pour une récompense ou un effet en contrepartie, ne pas avoir l'argent d'une boutique pour espérer quelque chose de meilleur, surtout que les boss du jeu peuvent être très cruels, annuler les points d'une couleur, ou même rétrograder les niveaux d'une des combinaisons. Il faut être prêt pour affronter les boss. Balatro, comme beaucoup de gens, c'est un coup de cœur. Idéal pour faire une partie de temps en temps. Parfait sur Steam Deck, malheureusement il a disparu de la Switch à cause d'un passage PEGI 3 au 18, en cause le combo poker plus jeu d'argent entre guillemets, en espérant une bonne fin pour une ressortie. C'est dommage car c'est parfait en nomade, même si c'est prévu qu'il sorte sur Android et iPhone plus tard. Que vous soyez fan de poker ou non, allez-y, mais attention à l'addiction.
Balatro. Never underestimate a joker.
Et on passe aux zappers.
When you shoot the light sensing zapper.
Aujourd'hui dans le zapper, je vous parle d'une chaîne qui me fait du bien, m'apaise, RMC The Cave, des passionnés anglophones de retrocollectif.co.uk qui cherchent, réparent, préservent des vieilles machines du jeu vidéo. Le MO5.com, mais avec un charme british que j'aime beaucoup. Je vous recommande deux séries de vidéos plutôt récentes, celle autour du Sega Megatech, une sorte de Mega Drive mais en version bande d'arcade, et celle autour du Nintendo M82 Kiosk System, une machine qui servait pour les présentations en magasin, tu pouvais avoir jusqu'à une douzaine de jeux en démo. Vraiment, on sent la passion, ça explique les galères, les solutions, je trouve ça passionnant. Et on passe au Super Scope.
voici le Super Scope 6.
Alors, qu'est-ce qui me fait d'œil prochainement? Je pense que je vais me laisser tenter par Dragon's Dogma 2. J'ai pas fait le 1, mais il a une réputation solide, donc très envie de l'essayer. Aussi, pourquoi pas essayer Control? Il est de retour en version Ultimate dans le Game Pass. Tout le monde en dit du bien, donc pareil, curieux. Merci d'avoir suivi cet épisode de Omanette, un podcast produit par Club Katsu. Merci d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve pour le prochain épisode. Allez, à plus dans le stage bonus.